Lisons ensemble ces deux versets que nous trouvons en Jean chapitre 4, et ce sont les versets 28 et 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens : « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Cette question est intéressante, surtout après la lecture de ce qui précède, puisque nous savons que cette femme a une rencontre toute particulière avec Jésus-Christ, et que Jésus-Christ, qui était aussi prophète, qui connaissait les cœurs et qui avait une révélation par l'esprit de ce que les gens pouvaient vivre ou penser, avait découvert son péché. Et celle-ci d'ailleurs l'a confessé. Donc elle avait 5 maris et elle vivait avec quelqu'un qui n'était pas son mari. Et donc Jésus avait découvert cela et elle-même d'ailleurs ne cherchait pas à le cacher. Et donc cette femme avait une vie complètement dissolue qui devait être connue dans le village où elle habitait. Et là, elle vient dans ce même village, elle va auprès de ses habitants et elle dit « Venez voir, un homme m'a dit tout ce que j'ai fait ». Sous-entendu, vous savez peut-être ce que j'ai fait, mais c'est normal, nous vivons dans le même lieu depuis des années. En revanche, cet inconnu a tout dit. Il a tout dit de ma vie, il a sondé mon cœur. Et elle pose la question, ne serait-ce point le Christ ? Évidemment, le sujet était délicat pour qu'une femme ose dire que le Messie était venu, sachant qu'elle-même, elle n'était pas juive, elle était samaritaine. Elle s'adresse à des samaritains qui avaient des conflits et n'adoraient pas Dieu de la même manière. Et annoncer ainsi que c'était le Messie, ça aurait été peut-être un peu trop provocant. Donc elle pose une question, elle interroge ceux qui l'entourent. Un peu comme Jésus a fait avec elle d'ailleurs, hein. il a pas forcément tout dit d'un seul coup, il a suscité la curiosité dans le cœur de cette femme pour qu'ensuite elle soit disponible à recevoir la vérité. Et elle-même, en posant cette question, suscite cette curiosité, ce qui fait que les habitants de cette bourgade vont aller vérifier. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que nous voyons quelque chose de très particulier et qui nous montre combien la confession et la transparence devant Dieu est importante. Parce que cette femme a été découverte, mise à nu, je dirais, elle est devenue transparente devant Dieu. Et c'est là où il y a un paradoxe, lorsqu'on regarde la chose de façon naturelle, c'est qu'on pourrait s'attendre à ce que cette femme, alors qu'elle a été découverte, se sente coupable, qu'il y ait un poids sur ses épaules, qu'elle ait honte, qu'elle garde le secret de cette conversation. Or, tel n'est pas le cas. Elle, au contraire, elle confesse, elle est comme libérée de ce qui vient de se passer. Et ce point est important parce que lorsque nous confessons nos péchés, il faut croire aussi, et quand on se repent et qu'on décide de marcher d'une autre manière, il y a à la fois quelque part une forme d'humilité renforcée qui s'installe. Je dis pas qu'on a toujours de la honte, même si ça peut arriver. En tout cas, on n'est pas très fier. Et en même temps, nous sommes délivrés. Paul en parle, hein, alors dans un contexte beaucoup plus large, où là il parle de l'évangélisation et aussi de l'organisation des dons dans l'Église. Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 24 et 25, il dit ceci, « Si tous prophétisent, donc là le verbe prophétiser c'est dans le sens de parler de la part de Dieu, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, donc quelqu'un qui n'est pas encore inséré dans la famille de Dieu, qui n'est pas croyant, celui-ci est convaincu par tous, par ceux qui prophétisent, et il est jugé par tous. » Là, le verbe juger, c'est pas, il s'agit pas de condamnation, mais il s'agit là de discerner les choses, c'est-à-dire que la personne est mise à nu, là encore. Et au verset 25, Paul dit « Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. » Donc là, on voit quelque chose d'un peu similaire, c'est-à-dire que le ministère de l'Église locale a pour vocation de révéler les cœurs. Lorsque la parole prophétique est communiquée, les gens sont comme mis à nu. Lorsque l'on prêche un message, par exemple, on choisit un thème, on l'étudie et puis on l'expose devant l'assemblée, composée de croyants la plupart du temps et quelquefois de non-croyants, des visiteurs, des personnes qui ont été invitées. Et il arrive très souvent que les gens sont touchés parce que un point du message, un exemple qui a été donné, une explication qui a été fournie, met le cœur de l'auditeur à nu, et du coup il devient convaincu que au-delà du message qu'il a entendu, quelque chose se passe spirituellement, parce que tout comme cette femme a dit mais voilà, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, là le prédicateur ne sait pas forcément ce qui se passe dans le cœur de chaque personne. En revanche, il est inspiré par Dieu pour communiquer une vérité qui va révéler les cœurs dans le secret, je dirais, dans l'intimité des gens, et les gens se retrouvent devant Dieu et il y a une délivrance qui s'opère. Et Paul en parle là, ils tombent sur leur face et ils adorent Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et là, c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Son cœur a été mis à nu. On ne sait pas si elle l'a adoré, elle ne s'est pas expliqué, mais en tout cas, elle a cru, et on est sûr qu'une relation toute particulière s'est installée avec Dieu au travers du Messie. Et elle publie que Dieu est réellement présent. Et ça, c'est la vertu de la transparence devant Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'une personne se retrouve nue, si elle a honte, si elle se sent coupable, si elle a peur d'une condamnation, si elle a peur du châtiment, elle va se cacher. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève, qui ont essayé de se couvrir avec des feuilles de figuier, qui se sont cachées dans un arbuste quand l'Éternel est revenu dans le jardin d'Éden. Il en est ainsi pour toute l'humanité. C'est-à-dire que l'humanité qui n'a pas une bonne relation avec Dieu, voire pas du tout, se cache en permanence, n'arrive pas à se remettre en question, ne vit pas dans la vraie repentance. En revanche, lorsque nous nous convertissons à Dieu, et plus encore lorsque nous mûrissons et que spirituellement et que notre relation avec le Seigneur est de plus en plus profonde et vraie, il s'avère que la repentance, la remise en question, engendre non seulement l'humilité et un changement de comportement, mais aussi suscite un soulagement. Il y a une paix intérieure à être en accord avec ce que Dieu pense. Jésus, le Messie, savait ce qu'il croyait, il était rempli de grâce et de vérité, et il communique à cette femme tous ses péchés. Et cette femme le savait, bien entendu, elle savait ce qu'elle faisait, mais elle n'était pas transparente devant Dieu. On peut imaginer que sa vie n'était pas une vie heureuse. Elle faisait peut-être ce qu'elle voulait, elle tombait dans certaines convoitises, peut-être, elle tombait dans la tentation. Néanmoins, elle n'était pas délivrée, son péché ne la délivrait pas. Elle faisait ce qu'elle voulait, elle se croyait peut-être libre, mais en réalité, elle n'était pas délivrée. Et la vraie délivrance, c'est quand on est transparent devant Dieu, c'est-à-dire qu'on est mis à nu, ce qui fait qu'encore une fois, on se retrouve peut-être humilié d'une certaine manière, mais en même temps, on retrouve la paix avec Dieu. Je me souviens quand j'étais à l'école primaire, j'avais à un moment donné passé un moment difficile où j'avais de mauvaises notes, et comme je ne souhaitais pas être puni, être corrigé par mes parents, j'avais signé un cahier scolaire que l'on ramenait toutes les semaines à la maison à la place de mes parents. Et donc j'avais signé ce cahier, j'avais imité la signature de mes parents, et le lundi matin j'avais montré à la maîtresse cette signature, et donc c'était passé comme une lettre à la poste. Le seul problème, c'est que ce cahier devait être montré aux parents chaque semaine. Ce qui fait que j'étais rentré dans un système où il y avait péché sur péché, puisque chaque samedi, quand je rentrais à la maison, je ne montrais pas ce cahier, je mentais à mes parents, je disais que la maîtresse, ben voilà, elle donnait plus le cahier de la semaine, elle avait changé d'attitude ou de stratégie. Ce qui fait que je signais chaque semaine, parce que j'étais obligé le lundi, à chaque fois, de montrer ce cahier à la maîtresse parce que les parents devaient le signer. Et un jour, j'ai été pris, c'est-à-dire que mes parents ont découvert ce que j'avais fait, et bien entendu, j'ai été corrigé, j'ai été puni, mais en même temps, j'ai été soulagé. Parce que pendant des semaines, comme je cachais ce péché avec mes parents, même si eux ne savaient rien, à la différence avec Dieu, c'est que nous, on ne peut pas se cacher de Dieu, mais paradoxalement, on a le même comportement en réalité. On fait comme si Dieu ne savait pas. Ce qui fait que je cachais mon péché, ce fait que la relation paraissait correcte, mais mes parents ne me punissaient pas, voilà, tout allait très bien. La seule chose, c'est que moi, je savais que la relation n'était pas transparente. Je savais que je mentais. Et donc, je savais que je n'avais pas une relation digne de ce nom. Et ce qui fait que j'étais pas fier. Et lorsque mon péché a été découvert, bien entendu, j'étais pas content de subir les conséquences de cette désobéissance, et en même temps, j'ai été soulagé. Je me rappelle même en avoir parlé à un de mes copains de ce que j'avais fait et du fait que j'avais été pris au piège, si vous voulez, et ensuite que mon péché avait été découvert. Et ce soulagement avait provoqué même cette confession auprès d'un copain, une confession dans le sens où je racontais cette histoire. J'avais plus honte, en fait, parce que le fait d'avoir été délivré de ce péché, que maintenant j'avais une relation vraie avec mes parents, avait provoqué un soulagement qui m'amenait à parler. Et de la même manière, cette femme va dans ce village et non seulement elle a parlé à Dieu, mais maintenant elle parle aux autres. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit annoncer la couleur de notre cœur tortueux et confesser nos péchés à tout le monde, il ne s'agit pas de cela. Mais je parle là de relations vraies. C'est-à-dire que quand on a une vraie relation avec Dieu, on est restauré. Et l'une des raisons pour lesquelles on ne se met pas en règle avec Dieu, c'est qu'on a tellement peur d'un châtiment, on pense que Dieu nous en veut et que si on confesse la chose, ça va augmenter encore la culpabilité. Et il en est de même des fois, d'ailleurs, avec certaines personnes, des relations qu'on peut avoir, c'est que parfois on n'ose pas avouer des erreurs qu'on a pu faire, des choses qu'on a dit, des médisances, et on n'ose pas demander pardon, une attitude, etc. Pourquoi ? Parce que on a peur de la réaction de la personne en face. Mais des relations fondées sur l'amour et sur la grâce font que même quand le péché est découvert, il y a une restauration possible, et du coup, la relation est encore plus profonde. Et en psaume 51, verset 3, lorsque David a écrit ce psaume, vous savez, après son adultère et son meurtre, il écrit « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi ». Et ce qui est intéressant là, c'est lorsqu'il parle de ce péché, surtout au début du psaume, il parle d'un péché qui est devant lui, il reconnaît qu'il a eu tort, mais ça ne veut pas dire que le péché est devant Dieu, c'est-à-dire qu'il n'a pas amené ce péché devant Dieu. En revanche, au psaume 32, verset 5, il est écrit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité, j'ai dit « J'avouerai mes transgressions à l'Éternel ». Donc vous voyez, c'est une confession, on décide de confesser, de faire connaître ce péché. Et là, la fin du verset rajoute ceci, « Et tu as effacé la peine de mon péché ». De la même manière que Jésus a effacé la peine du péché de cette femme au puits. Il a effacé la peine de la femme adultère. Il a effacé la peine des péchés de Matthieu. Il a effacé la peine des péchés de Pierre. Il a effacé la peine des péchés de Paul. Il a effacé la peine de mes péchés, de nos péchés, de vos péchés. Et donc la transparence retrouvée devant Dieu, le fait qu'il n'y ait plus de feuilles de figuier, qu'il n'y ait plus d'arbustes, ni religion, ni hypocrisie. Cette transparence nous soulage, sachant en plus que c'est Dieu qui va nous justifier, c'est Dieu qui va nous revêtir de la peau d'un animal pour Adam et Ève, mais de façon spirituelle, il va nous revêtir de la justice de Christ. Tout comme Christ est parfait, nous nous sommes revêtus de sa justice. Donc nous pouvons à la fois être transparents devant Dieu et en même temps protégés par ce même Dieu qui ne va pas déverser sa colère contre nous. C'est pour cela aussi qu'il est écrit en 1 Jean chapitre 1 verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La transparence devant Dieu nous fait rencontrer la purification de nos péchés, le pardon et la purification par le sang de Christ. Et c'est pour ça aussi qu'il est écrit dans l'Ancien Testament en Proverbe 28 verset 13 « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Voyez, nous devons avouer à Dieu et délaisser nos péchés, et on obtient une miséricorde qui nous délivre, qui nous soulage. De la même manière, on va peut-être rétablir des relations avec certaines personnes, ou même approfondir certaines relations, en étant un peu plus transparent avec certaines personnes, en disant « voilà, j'ai une attitude avec toi qui n'était pas correcte, j'ai pensé peut-être certaines choses, je t'ai soupçonné, ou j'ai dit du mal de toi, mais je veux que cette relation soit vraie et transparente, et je crois que tu peux me donner la miséricorde, le pardon, la grâce et l'amour. » Et c'est ainsi que l'on va pouvoir s'aimer les uns les autres. Vous savez, quand cette femme est venue au puits, elle cherchait de l'eau, mais il y a une eau spirituelle plus importante encore. En Jean 4, 14, Jésus lui fait cette promesse. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et cette vie éternelle, elle nous est décrite en Apocalypse 22, 17. et l'esprit et l'épouse disent « viens », et que celui qui entend dise « viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et dans nos relations aujourd'hui avec Dieu, dans nos relations les uns avec les autres, prenons cette eau de la vie, cette eau spirituelle qui est le fruit du pardon, de la confession, de la repentance et de la transparence. Cette eau claire et pure liée à la purification de nos péchés nous amène à être rassasiés. On n'a plus soif et donc nous sommes réellement délivrés. Que Dieu vous bénisse.